France Inter.
Aujourd'hui, Artemis ou le nouveau rêve lunaire, raconté par
Sylvain Boulet, planétologue et professeur à l'université Paris-Saclay.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
En décembre 1972, un homme quittait la Lune en promettant que d'autres reviendraient un jour pour reprendre l'exploration. Ce jour-là, la mission Apollo 17 s'achevait et avec elle, toute la première ère des vols lunaires habités. Mais qui s'en souvient ? 3 ans plus tôt, Apollo 11 avait été un choc historique, le premier pas d'humain sur un autre monde que la Terre. Un exploit à la fois politique et technologique qui avait été scruté par des centaines de millions de téléspectateurs. Apollo 17, elle a été moins spectaculaire médiatiquement, mais plus aboutit scientifiquement. La NASA, pour cette dernière mission lunaire, a décidé de frapper fort. À bord, Gene Cernan, commandant, Ronald Evans en orbite dans le module de commande America, et surtout Harrison Schmitt, premier et unique géologue à marcher sur la Lune. Ce choix marque une évolution majeure. La Lune n'est plus seulement un objectif à atteindre, elle devient un terrain d'enquête scientifique. Sur la Lune, Cernan et Schmitt vont séjourner près de 75 heures, un record toujours inégalé, et vont récolter 115 kilos d'échantillons. L'utilisation d'un véhicule lunaire permettait d'explorer plus loin et plus méthodiquement la surface lunaire. Au terme de la troisième sortie, Schmitt remonte dans le module. Cernan reste quelques instants seul à la surface. Il lit la plaque commémorative célébrant la fin de la première exploration de la Lune et exprime le souhait que d'autres reviennent. Le 14 décembre 72, il sera donc le dernier homme à marquer le sol lunaire de son empreinte. Sa promesse qui clôturait l'ère Apollo est demeurée lettre morte pendant plus d'un demi-siècle. Mais aujourd'hui, la NASA se prépare à faire atterrir à nouveau un vaisseau habité sur notre satellite, normalement en 2028, dans le cadre du programme Artemis. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Apollo 17 marque donc la fin d'une astronautique héroïque, d'une astronautique humaine. La prochaine décennie sera marquée par une astronautique moins spectaculaire, moins excitante, mais plus utile, plus efficace. Une astronautique au service de la Terre.
Archivo RTF de 1972, bonjour Sylvain Boulet.
Bonjour.
Le retour d'humain sur la Lune n'est pas un long fleuve tranquille, si l'on en juge par les reports à répétition des missions de la NASA, qui annonçait vendredi une large refonte de son programme lunaire Artemis, qui a subi ces dernières années pas mal de retard. Histoire, disait la NASA, d'assurer un retour donc des Américains sur la surface lunaire, comme prévu en 2028. Deux questions. Est-ce que d'abord vous y croyez à cette date et qu'est-ce qui se passe vraiment en ce moment ?
C'est une bonne question. Alors, y croire, c'est vrai qu'on en parle depuis quand même déjà plusieurs années de ce premier nouveau pas à la surface de la Lune.
Hein. Ah, c'est dans 2 ans. Hein.
Exactement. Et là, ça se rapproche. On retarde, les lancements ne se font pas. Pour l'instant, on attend encore le lancement d'Artemis 2 qui devrait avoir lieu en avril, mais on n'est pas sûr encore aussi de ce lancement.
Artemis 2, c'est pour aller faire le tour de la Lune.
Oui, c'est ça. Artemis 2, c'est juste à faire ce qu'avaient fait les astronautes d'Apollo 8, c'est-à-dire faire vraiment le tour de la Lune et revenir sur Terre. Et puis, effectivement, ce qu'on attendait tous, c'était Artemis 3 avec le retour de l'homme sur la Lune.
Ou de la femme, d'ailleurs.
Ou de la femme, hein, puisqu'effectivement, même là, hein, dans l'équipage d'Artemis 2, il y aura une première femme. Et c'est vrai que sur Artemis 3, on se posait beaucoup de questions. C'est qu'on parlait de 2027, puis 2028, mais c'est demain. C'est-à-dire qu'on n'était pas prêt, il semblerait. Et en fait, cette annonce montre bien qu'ils n'étaient pas prêts, qu'on va rajouter de nouvelles missions qui vont tester, en fait, tout simplement les différents systèmes. Il ne faut pas oublier qu'entre Apollo 8 et Apollo 11, il y a eu Apollo 9 et Apollo 10 qui ont testé les différentes technologies. Et je pense qu'on en est là. Aujourd'hui, il est quand même plus sage, effectivement, de tester, de voir comment se connecter, notamment en orbite terrestre, aux différents modules. Et puis, tout simplement, de préparer l'alunissage.
Ouais, et puis, la nouveauté, c'est qu'il y a d'autres acteurs que les Américains. Ce sont les Chinois, qui sont là aussi en embuscade et qui espèrent bien poser poser aussi quelques pieds sur la Lune en 2030 ?
2029 même, hein, puisqu'on va fêter les 80 ans de la République populaire de Chine. Et en fait, ils aimeraient bien poser dès 2029 cette fusée lunaire chinoise. Et ils ne sont pas loin, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de tests. Hein, ils ont fait déjà des tests du module d'atterrissage lunaire. La fusée aussi est en bonne évolution. Donc voilà, les Américains ont peur quand même, hein, et ils essayent quand même d'essayer d'accélérer le calendrier parce qu'ils voient quand même 2029 arriver, et il serait bon que les Américains arrivent avant les Chinois, en tout cas du point de vue américain.
Ouais, donc une pression chinoise très claire, hein, et les Américains pourraient perdre la partie là, cette fois-ci, se faire devancer par les Chinois ?
Et c'est totalement possible parce qu'on le voit bien, hein, le système d'atterrissage lunaire, hein, n'est pas encore prêt. Les combinaisons d'astronautes vont être testées aussi lors de cette prochaine mission en 2027. Donc, on voit bien que c'est tout juste, ça va se jouer certainement à quelques mois. Et donc, le moindre petit grain de sable pourrait empêcher les Américains d'être les premiers de nouveau à la surface de la Lune.
Donc, Artemis 3 ne comprendra pas l'alunissage, comme il était annoncé jusqu'à maintenant. Donc, il y aura quoi, Artemis 4 ou 5 ?
Oui, c'est ça. En fait, clairement, Artemis 3, ça sera l'équivalent d'Apollo 9, c'est-à-dire qu'en orbite terrestre, ils vont tester justement la connexion, les rendez-vous, hein, entre la capsule Orion, où les astronautes se situent, en fait, lorsqu'ils partent de la Terre, et puis le module d'alunissage, hein, notamment le spaceship HLS, là, qui devrait se poser à la surface de la Lune. Et donc, il y a cette espèce de rendez-vous. Ils vont faire des manœuvres de retournement pour voir comment se connecter en orbite terrestre. Et toutes ces manœuvres devront être en orbite lunaire pour le jour J.
Sylvain Boulet, donc depuis Apollo 17 en 72, plus aucun humain n'a voyagé aussi loin que la Lune. Qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir eu plus de 50 ans de silence au-delà de l'orbite basse ?
Ah, je pense qu'on a... Bon, il y a eu évidemment quand même une grande expérience. Hein. Il faut quand même dire, ok, certes, on n'est pas retourné sur la Lune, mais il y a eu le lancement de la navette spatiale, le développement de la station internationale. Il y a eu le développement de toutes ces missions planétaires qui ont été indispensables pour l'exploration du système solaire et de tous les télescopes qui ont été envoyés. On a vécu vraiment de belles décennies. Alors, il faut se rendre compte que tous les ans, finalement, on a de nouvelles données. Et moi, en tant que planétologue, c'était un rêve. Hein. Finalement, depuis que je suis né, j'ai vu de nouvelles images et de nouvelles données qui nous ont vraiment fourni toutes les informations nécessaires pour essayer de reconstituer l'histoire de notre système solaire. Ouais. Donc, évidemment, aujourd'hui, je suis très content de pouvoir revivre ce retour sur la Lune, parce que je n'étais pas là en 69. Donc, j'ai bien envie de revivre un peu cette émulation et cette joie d'aller se balader sur cet astre qui est vraiment juste au-dessus de nos têtes. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est vraiment encore de la poudre comme ça aux yeux? Ou alors une vraie installation pour essayer de continuer cette exploration du système solaire. Ça, on le saura effectivement dans les prochaines années.
Mais c'est quoi l'intérêt aujourd'hui, au fond, d'envoyer à nouveau des humains dans la Lune ? Parce que beaucoup de celles et ceux qui nous entendent vont dire « Mais qu'est-ce qu'on va mettre de l'argent là-dedans » à une époque, évidemment, où tout le monde se serre la ceinture absolument de partout. C'est quoi l'intérêt pour vous en tant que scientifique ? Il y a vraiment des enjeux de connaissances qui sont là ?
Oui, en fait, il faut bien se rendre compte que l'histoire de la planète Terre ou même l'histoire de la Lune, sont liés directement à toutes les roches qu'on étudie sur Terre. Pourquoi on connaît si bien la Terre ? C'est parce qu'on est capable d'aller partout sur Terre pour échantillonner les roches, pour les étudier. Et en fait, notre histoire de la Terre qu'on connaît si bien, c'est plus de 2 siècles d'exploration de la planète Terre. Pour connaître la Lune, c'est pas seulement se poser quelques fois à quelques endroits qui vont nous permettre de bien connaître notre Lune, et encore moins la Terre, parce que je vous le rappelle, la Terre et la Lune ont directement une histoire commune. Et donc finalement, pour connaître véritablement la Lune, il faut se poser à plein d'endroits, ramener plein de cailloux et pouvoir éventuellement étudier et analyser toutes ces roches dans nos laboratoires.
Ouais. C'est quoi notre histoire commune d'ailleurs avec la Lune ?
Aujourd'hui, on a une histoire qui ressort, c'est-à-dire qu'on pense, bien sûr, on pourrait, ça reste une hypothèse, on pourrait remettre tout à plat. On pense tout simplement que la Terre est née d'une collision majeure entre la Terre en formation et une petite planète qu'on appelait Théia, qui faisait peut-être la taille de la planète Mars, qui est rentré en collision il y a 4,45 milliards d'années à peu près. Et de cette collision est née notre Terre et la Lune. Et donc ça, c'est fantastique parce que ça montre quand même le côté unique de notre planète Terre. Je vous le rappelle, hein, dans le système solaire, Mercure, Vénus, Mars n'ont pas de satellites aussi gros. Et on voit que la Lune, on le sait, hein, a eu un rôle important dans l'histoire de la Terre, notamment dans la stabilité eh bien, de notre planète Terre. Et donc, si on est là, eh bien, c'est peut-être parce que la Lune, finalement, est née il y a 4,4 milliards d'années.
Et donc, nous sommes nés ensemble ?
On est nés ensemble. Et ça, c'est une belle histoire. Hein. C'est-à-dire que, voilà, quand on regarde la Lune, je vous rappelle que la Lune, elle est perchée au-dessus de notre tête. C'est le seul astre où on arrive à voir des détails comme ça, rien qu'à l'œil nu. Et donc, évidemment, elle a influencé des centaines de générations depuis l'Antiquité. On a envie de l'observer, de rêver, de faire de la musique avec. Et donc, évidemment, en l'observant, en la connaissant un peu mieux, eh bien, naturellement, voilà, on réécrit cette histoire.
Mais c'est quoi ? C'est un petit bout de Terre, finalement, la Lune ? Ou c'est un mélange, finalement, de la collision ?
Alors non, c'est un mélange. Hein. C'est-à-dire que, imaginez-vous, dans cette collision, une planète de la taille de Mars et la taille de la proto-Terre, en fait, était aussi gros que la Terre, bah, on se rend bien compte que le petit débris qui reste, c'est la Lune. Mais la Lune, en fait, s'est réaccrétée autour de la Terre. C'est-à-dire qu'une grosse partie de cette planète qui est rentrée en collision avec la Terre, eh bien, c'est encastré dans la Terre, en fait. Tout ça a refondu, s'est remélangé et il y a eu des petits résidus qui sont restés, qui se sont réaccrétés en orbite terrestre et ça a formé la Lune. Mmh. Et donc, évidemment, il y a des ressemblances chimiques entre la Terre et la Lune et ça, c'est ce qu'on a découvert, notamment, eh bien, en étudiant les roches ramenées par les missions Apollo.
On est à combien de kilomètres de notre satellite ?
On est environ à 380 000 kilomètres de la Terre. Hein. Donc, voilà, c'est à côté. Hein. On est, même les missions Apollo ou Artemis mettent 3-4 jours pour aller. C'est vraiment...
C'est la banlieue.
C'est la banlieue,
quasiment.
Exactement.
Pourquoi justement Artemis 2, donc cette mission qui va faire d'abord le tour de la Lune, est présentée comme une mission similaire à Apollo 8, hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce qu'on refait ou qu'est-ce qu'on va chercher à vérifier au fond alors ?
Ah, en fait, la première chose, c'est qu'on avait perdu pas mal de compétences dans la fabrication de la fusée. C'est-à-dire que.
En 50 ans, on avait oublié des choses.
Bah, les technologies aussi ont changé. C'est-à-dire que vous prenez la fusée Saturne V, il y a 50 ans, il n'y avait quasiment pas d'informatique. Aujourd'hui, bah, l'informatique est rentrée véritablement dans cette fusée. Alors évidemment, les technologies sont quand même encore les mêmes, mais il faut réinventer une fusée de plus de 100 mètres de haut. Ça n'existe pas. Après, quand on a mis Saturne V au garage, eh bien, il y avait plus de fusée aussi puissante et donc il a fallu réinventer une fusée aussi puissante qui est la fusée SLS hein, pour Space Launch System. Et donc ça va être déjà évidemment, c'est toujours un premier test. Imaginez-vous quand même les 4 astronautes qui vont repartir, ils se remettent au sommet de cette petite fusée de 100 mètres et pour la deuxième fois seulement, il y a de quoi quand même c'est un peu avoir peur.
C'est le premier étage de la Tour Eiffel à peu près. Hein.
Une centaine de mètres. Hein, donc, et la capsule, hein, je vous le rappelle, c'est la capsule Orion, c'est un micro-espace hein, de 3 mètres de haut, 5 mètres de large, et donc les 4 astronautes eh bien, seront perchés tout là-haut.
Il n'y a pas de lancement sans astronaute dans un premier temps, Sylvain Boulet ?
Alors, la mission Artemis 1 a été sans astronaute, hein, c'est-à-dire que voilà, ça a été la première fois, la première répétition, où on a mis des mannequins à l'intérieur de la capsule Orion. Et ça
mais il n'y en a eu qu'une, répétition.
Exactement, qui a bien marché.
Donc effectivement, ce n'est pas beaucoup pour ces 4 astronautes, dont une femme, qui décolleront. Alors quand, d'ailleurs ? En avril, là ?
Ils disent le 1er avril, mais voilà, on le voit bien. Hein, depuis début février, on attend. Il y a eu diverses fuites, différents problèmes techniques. On espère que ça sera résolu pour le 1er avril, mais rien n'est moins sûr.
Aller sur la Lune, ou aller vers la Lune, déjà, dans un premier temps, aujourd'hui, donc 50 ans, un peu plus de 50 ans après Apollo 17, c'est plus difficile ou c'est difficile de la même manière, au fond ? Ou c'est moins difficile ?
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus difficile parce que je pense qu'à une époque, même s'il y avait un engouement, c'était la première fois, parce que les normes de sécurité n'étaient peut-être pas les mêmes. Ouais. On envoyait les premiers astronautes qui ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Aujourd'hui, bah, on pense quand même avant tout à la sécurité des astronautes. Et donc,
un enjeu majeur pour la NASA.
Exactement. Et donc, il faut tout faire bien, c'est-à-dire qu'on le voit bien, la moindre petite fuite est repérée et prise avec sérieux. Et évidemment, un échec de cette mission Artemis 2 serait une catastrophe pour évidemment les astronautes, mais aussi pour le programme américain lunaire.
Dans le contexte évidemment géopolitique a changé quand même, mais est-ce que dans l'esprit au moins des citoyens américains, il y a un engouement qui a beaucoup changé lui aussi depuis 50 ans ou pas ?
Je pense que l'engouement va être moindre, hein. C'est-à-dire qu'on le voit même, hein, dans la communication générale là, sur Artemis 2, bon, on en parle, mais ça reste finalement une fusée qu'on lance comme on a eu en même temps le lancement de Sophia Adnot et puis Artemis, on a quand même plus parlé de Sophia Adnot
en France hein.
Mais c'est vrai que l'engouement n'est pas le même, clairement, hein. On sait quand même que la première fois c'était en 69, on sait quand même que en 72, après Apollo 17, bah, y a eu un désengagement quand même du grand public, donc on va renaître quand même un engouement, mais ça va être moins.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong. Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong.
Voici le premier pas.
Le 21 juillet 69, évidemment, les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, en direct à la télévision. Sylvain Boulet, planétologue, vous êtes notre invité. Vous n'étiez pas né, malheureusement, pour suivre cette retransmission en direct, comme l'ont vu des millions de personnes dans le monde, avec cette phrase extrêmement célèbre de Neil Armstrong. Quelle sera la prochaine phrase, à votre avis, quand on remettra le pied sur la Lune ? Est-ce que vous avez imaginé ce que pourrait dire celle ou celui qui aura l'honneur de poser le premier pied sur la Lune 50 ans plus tard ?
C'est une bonne question. Peut-être quelque chose en lien avec la communauté internationale. En fait, on voit bien quand même que Artemis est né quand même aujourd'hui et rassemble une soixantaine de pays derrière les accords d'Artemis. Et donc, voilà, c'est plus un truc américain, alors même si quand même la part américaine est la plus forte, mais ça reste quand même une belle collaboration. Et donc, j'espère peut-être que ça sera quelque chose d'un peu plus voilà, unifiant les peuples.
C'est quoi ces accords exactement ? Alors, ce sont des accords géopolitiques ?
Oui, c'est des accords géopolitiques qui ont été signés au fur et à mesure là, ces dernières années, en fait, par une soixantaine de pays qui vont, en fait, proposer d'explorer l'espace en paix, d'essayer de bien réglementer l'exploration de la Lune, d'essayer de conserver le patrimoine lunaire et spatial, donc vraiment, et puis de faire ça de manière pacifique, donc voilà, ça engage pas à rien uniquement, enfin, que sur les missions Artemis, mais c'est une façon de voir l'espace ensemble, derrière quand même cette mission assez incroyable.
Alors, si Artemis, 4, 5 ou 6 se pose sur la Lune, donc en 2028, on l'espère en tout cas, où est-ce qu'ils iront se poser exactement ? Est-ce que ça, on connaît déjà le lieu précis ?
Alors, on ne connaît pas le lieu précis. Le site d'alunissage n'a pas été choisi encore. Il y a plusieurs sites qui sont en compétition, mais on sait que ça devrait se poser vers le pôle sud lunaire. Et ça, c'est une quasi-certitude.
Alors, pourquoi le pôle sud excite tout le monde là, en ce moment ?
Alors, en fait, ça excite tout le monde, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a de grandes quantités de glace, d'eau, en fait, au niveau des pôles. Et il faut savoir qu'au niveau des pôles, il y a des régions, en fait, qui sont sans cesse à l'ombre, avec des températures inférieures à moins de 100 degrés. Et par conséquent, on peut avoir de la glace stable, en fait, sur la subsurface, hein, vraiment, sur les premiers mètres. Et donc, on s'excite parce que, on sait que potentiellement, il y a un gros réservoir de glace d'eau dans cette zone. Et cette glace d'eau pourrait être utile dans le futur pour une base permanente lunaire, et donc ça serait l'endroit idéal pour essayer éventuellement d'extraire cette glace pour l'utiliser aussi bien pour avoir de l'eau pour les astronautes, mais aussi pourquoi pas de l'extraire pour en refaire du carburant. On sait que voilà, l'eau c'est H2O, l'hydrogène et l'oxygène, hein, c'est ce qui est utilisé pour les fusées, et puis aussi tout simplement l'oxygène à respirer. Donc ces grandes quantités d'eau, elles ont été détectées depuis plusieurs décennies en orbite, on sait qu'elle est là, mais indirectement, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais vue vraiment. Alors ça, c'est vraiment la grande incertitude. On pense qu'elle est là, on a des observations indirectes, mais on n'a jamais foré, on n'a jamais vu cette glace. Donc, il va falloir vérifier ça, notamment lors des premières missions, et d'essayer de quantifier cette eau, parce que pour l'instant, il y a vraiment une grande incertitude sur la quantité globale du réservoir.
Mais c'est incroyable, parce qu'on est à 300 000 km, donc c'est vraiment, on le disait tout à l'heure, la banlieue quasiment de la Terre, par rapport à d'autres planètes, et on ne connaît pas si bien que ça le sol lunaire.
Non, bah c'est ça qui est génial, en fait, parce que voilà, on a besoin... En fait, ce qu'on voit, c'est la surface, donc on a énormément de mal à comprendre ce qu'il y a en profondeur. Est-ce que c'est des poches d'eau liquide? Est-ce que l'eau, elle est finalement dans la porosité de la roche? Comment on va pouvoir extraire cette eau qui n'est pas, voilà, comme une aquifère ou comme quelque chose vraiment de, avec un lac souterrain? Alors, ouais. il faut oublier cette image. Hein. Et donc, on a encore du mal vraiment à savoir jusqu'à quelle profondeur, par exemple, l'eau peut se situer. Est-ce que c'est vraiment superficiel ou est-ce qu'on a des poches d'eau en profondeur? Donc tout ça, il va falloir l'analyser depuis le sol avec les missions Artemis, mais aussi en orbite. Hein. Alors, je pense à une petite mission, la mission Mani, là, qui va être lancée, qui aura pour but de cartographier très précisément le pôle sud pour essayer justement de mieux comprendre et de mieux quantifier ce réservoir. Ouais.
Moins 200 degrés, vous le disiez, au pôle sud, mais quelle idée d'aller lunir là-bas, franchement. Il n'y a pas des endroits un peu plus clés pour
Alors, c'est moins de 100 degrés à l'ombre, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des endroits où il y a un peu plus de lumière, donc ça va se réchauffer, c'est-à-dire qu'il y a des zones totalement toujours à l'ombre, donc ça c'est bien parce que c'est comme le réfrigérateur ou le congélateur lunaire.
Ça conserve
quoi.
Bien la glace.
Voilà, ça conserve bien la glace, on peut se mettre un tout petit peu à côté et puis réfléchir comment on irait l'explorer. Alors après, la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit aller exploiter l'eau de la Lune? Ça c'est une grande question parce que voilà, on a peut-être moyen de s'y rendre, de rester quelques jours avec nos moyens. Évidemment, d'aller exploiter cette eau veut dire une présence humaine plus longue
et une pollution aussi.
Un début de pollution qui, on peut se demander si c'est vraiment souhaitable.
Donc ce qu'on a fait sur Terre depuis très longtemps, on va faire ça bis repetita sur un autre objet.
Et ça c'est vraiment problématique. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, que ça soit sur l'eau, sur les ressources en hélium-3, en terres rares, etc., on n'a aucune idée de la quantité de tous ces éléments. On peut espérer qu'il n'y en ait pas assez pour qu'on s'arrête là et puis qu'on continue notre exploration géologique avec des échantillons qu'on ramène, on sera très content.
La température, donc, au-delà du pôle sud où il fait très très froid, c'est quoi sur la Lune alors?
Ça peut être très chaud, hein, ça peut être une centaine de degrés et ça peut être moins de 200 degrés. Donc on a des contrastes thermiques énormes liés au jour à la nuit. Il n'y a pas d'atmosphère, il faut quand même bien réaliser ça. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Ça, c'est quelque chose d'important à préciser parce que nous, évidemment, on est bien tranquille derrière notre atmosphère. Et notre atmosphère, notre champ magnétique
nous protège
de pas mal de choses. Sur la Lune, on est aux premières loges, notamment du micro-bombardement, de toutes ces poussières météoritiques qui tombent à la surface de la Lune. Et là, il n'y a rien pour nous protéger. Donc, on est aux premières loges pour recevoir tout ce qui vient de l'espace. Mmh. Et donc, c'est vrai que l'absence de cette atmosphère provoque finalement des phénomènes géologiques qu'on ne voit pas forcément à la surface de la Terre.
Et comment les astronautes vont se protéger de tout ça?
Alors, c'est compliqué. Hein. Cette question, elle est essentielle. C'est est-ce qu'on peut rester plusieurs années à la surface de la Lune? La réponse, c'est pour l'instant, on n'en sait rien. Ne serait-ce que pendant une période de vent solaire très importante, une explosion de vent solaire extrêmement importante, on ne sait pas trop comment réagir. Par exemple, dans la capsule Orion, il y a des espèces de placards où, en fait, s'il y a une éruption de vent solaire très importante, on demande aux astronautes, les quatre astronautes, de se planquer dans les placards, typiquement pendant une journée, pour éviter l'interaction du vent solaire avec les cellules humaines. Et sur la Lune, on a tout ce micro-bombardement, il va falloir créer finalement des habitats qui va nous protéger de ce micro-bombardement, d'éviter de sortir par exemple pendant les pluies d'étoiles filantes. Vous savez, au mois d'août, on a envie de voir les belles étoiles filantes, on sort, on est dehors tranquillement en train de voir toutes ces belles étoiles filantes. Là, on sait bien que ce moment-là, la Lune passe dans un nuage de poussière et il faut rester bien au chaud et éviter justement la possibilité de rencontrer des micrométéores.
Dans cette eau glacée dont vous parliez, Sylvain Boulet, est-ce qu'on pourrait découvrir des traces biologiques?
Honnêtement, j'en doute. Je ne mettrai pas ma coupée. Je ne suis pas exobiologiste. Ce qui est sûr, c'est que cette eau, elle est issue notamment des comètes. Il y a peut-être de l'eau qui a été conservée. de l'eau avec des éléments de vie, comme des acides aminés, etc. Oui, on va certainement trouver de ça, de la matière organique. Encore une fois, on ne sait pas du tout comment la vie est apparue sur Terre. Et je pense que la vie sur Terre est apparue d'un ensemble de paramètres, notamment de l'impactisme, de l'atmosphère, tout ce qui a fait cette soupe un petit peu à l'origine pour créer de la vie. Sur la Lune, les conditions étaient certainement différentes. Donc, on a peut-être amené les ingrédients, mais la vie n'est peut-être pas apparue sur notre satellite.
Le pôle Sud, donc, pour installer une base lunaire permanente, comment on fabriquerait de l'énergie sur place ? Il y a des éléments naturels qui permettraient de le faire ou pas ?
Donc l'énergie, effectivement, hein, de l'eau, en fait, s'il y avait de l'eau, on pourrait, certainement ce que je disais tout à l'heure, hein, extraire cet hydrogène et cet oxygène qui pourraient servir de carburant pour les fusées, éventuellement, pour repartir, etc. Ensuite, on a la fameuse hélium-3, hein, on parle beaucoup d'hélium-3 à la surface de la Lune. L'hélium-3, ce sont ces éléments qui sont envoyés par le Soleil et qui peuvent être stockés à la surface, en fait, de la Lune, dans le régolithe lunaire. Donc, c'est pas la Lune qui a créé ces éléments, c'est clairement le vent solaire qui est venu impacter le régolithe lunaire, et ce régolithe lunaire, cette couche de poussière lunaire, eh bien, a réussi à capter depuis 4 milliards d'années, eh bien, cet hélium-3, et donc cet hélium-3, eh bien, c'est finalement stocké dans cette couche de régolithe lunaire.
Mais c'est quoi, c'est une sorte de lumière permanente ?
Alors non, c'est un atome, enfin, c'est un isotope de l'hélium. On sait que la fusion de cet hélium, en fait, pourrait être une source incroyable d'énergie.
Hein. On pourrait l'utiliser.
Voilà, c'est juste une chose qui n'existe pas sur Terre, et cette source, si on réussissait à maîtriser la fusion, eh bien, on pourrait avoir une source d'énergie considérable sans déchets. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Sauf que là, on peut encore se poser des questions, c'est qu'on sait que les quantités sont énormes sur la Lune, mais en très faible concentration, et donc il faudrait des millions de tonnes pour extraire un tout petit peu d'hélium-3. Et donc c'est pareil, on en est loin, on n'a pas du tout la technologie, et on peut se demander encore si c'est aussi indispensable.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Ah, moi, ça, s'il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, c'est bien ça. C'est pour amuser le public. Pour l'instant, vous ne voyez pas la pourriture qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre, tout ça ? C'est des histoires d'argent, ce n'est que ça. Et une histoire que nous sommes dans une époque de savants qui s'adressent à des ignorants. Alors on écoute ça comme on écoute le catéchisme, en croyant pas un mot. On n'y croit pas. Vous y croyez, vous, à tout ça ? Vous croyez qu'on va se construire des petites cabanes là-haut ? Et qu'il y aura un service d'avion 3 fois par semaine ? Ah non. En tout cas, tout ça, ça devient absurde.
Voilà, elle fabriquait des tailleurs, mais elle s'exprimait aussi parfois sur l'espace. Coco Chanel, en 1969, l'année du premier pas sur la Lune. Sylvain Boulet, vous qui êtes notre invité planétologue, qu'est-ce que ça peut nous foutre, disait Coco Chanel. Certains peuvent également penser exactement comme elle, encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein.
Mais je pense qu'ils n'auraient pas tort d'installer... Est-ce que vraiment c'est le bon moment d'aller installer des hôtels sur la Lune et d'envoyer des milliardaires qui iraient passer leurs vacances ? Non, je pense qu'on doit effectivement surveiller tout ça, et clairement, la Lune ne doit pas devenir le terrain de tourisme de milliardaires. Ouais. Pourquoi pas un terrain de jeu pour les scientifiques, bien raisonné et surveillé, mais il faut faire attention et déraper, et c'est difficile.
Ce sont de pieuses paroles, hein, parce qu'évidemment, s'il y a des opportunités commerciales de pouvoir accueillir un tourisme, personne, en tout cas aucun milliardaire ne s'en empêchera. Hein.
Malheureusement, il va falloir... je pense que j'espère que tout ce cadre-là, les accords justement Artemis, ont essayé de réguler tout ça, mais on se doute bien quand même que, avec toute l'économie derrière, c'est problématique.
Pour que la Lune reste une terre de science, Sylvain Boulet, avec justement les précédentes missions Apollo, qui ont donc rapporté énormément d'échantillons, c'était un peu plus de 100 kilos, hein, c'est ça ?
Près de 400 kilos.
Ah, 400 kilos en tout ?
Près de 400 kilos de roche au total.
Hein, ouais. Et donc ça, ça a permis de faire de la science pendant des décennies.
Oui, évidemment, hein, ça nous a permis déjà de mieux comprendre la nature géologique de la Lune, les différentes roches, de comprendre sa formation. On parlait tout à l'heure de la naissance de la Lune et de la Terre. Ces roches ont vraiment apporté beaucoup d'indices justement pour comprendre et essayer d'écrire ce scénario d'impact géant. Mais surtout, on avait des échantillons qu'on a pu dater à la surface de la Terre. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas dater une roche in situ sur un corps planétaire. Donc notre seule méthode méthode pour finalement dater des roches, c'est de les ramener sur Terre et de les dater dans nos laboratoires. Et en fait, dites-vous qu'on avait cette incapacité-là avant de pouvoir savoir l'âge de la Lune. Donc quand on a pour la première fois ramené les roches sur la Lune, on s'est rendu compte que les roches de la Lune avaient plus de 3 milliards d'années d'histoire. Mmh. Et donc ça, c'est passionnant parce qu'en fait, sur Terre, il faut bien réaliser que sur Terre, la majorité des roches sont très, très, très récentes, en fait, moins d'un milliard d'années. Et sur la Lune, quand on a accès à des roches qui ont plus de 3 milliards d'années, eh bien, on a accès aux premiers instants, finalement, de l'histoire de la Terre. Et ça, c'est passionnant. Ça. Et en plus, en datant les roches, on s'est rendu compte que plus une surface était cratérisée, plus les roches étaient anciennes. Et donc, grâce à toutes ces roches qu'on a datées, on a pu créer une loi qui relie la densité de cratères avec l'âge des terrains. Et ça, c'était incroyable parce que pour la première fois, on a créé un chronomètre planétaire. C'est-à-dire qu'en comptant les cratères, eh bien, on arrive à avoir une idée de l'âge des terrains. Et quand on parle, par exemple, des âges du mont Olympus, par exemple, sur Mars, eh bien, on n'a pas ramené de roches du mont Olympus. On a compté tout simplement les cratères. On a pu réadapter ces lois qu'on a déterminées à partir des roches lunaires. Et grâce à ça, eh bien, on est en mesure de pouvoir réécrire l'histoire de toutes les surfaces des planètes de notre système solaire.
Olympus, c'est le plus grand volcan, hein, c'est ça.
Ça,
hein,
exactement.
Il fait combien de kilomètres de haut?
25 kilomètres de haut.
Il est monstrueux.
Exactement.
Hein. Ouais, il est donc sur la planète Mars. Justement, qu'est-ce qu'on a appris d'autre, Sylvain Boulet, grâce à ces roches lunaires, au-delà de la datation?
Alors, effectivement, on a vu quand même la diversité géologique, hein, c'est-à-dire que on voit quand même que dans les roches, on va trouver beaucoup d'éléments qui ressemblent à celle de la Terre. Il n'y a pas longtemps, la mission Chang'e 5 a découvert un nouvel élément, un nouveau minéral qui a été découvert. Et donc, en fait, on découvre sans cesse de nouvelles choses à la surface de la Lune. C'est pour ça qu'il faut multiplier les sites d'atterrissage parce qu'on va avoir encore de belles surprises.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'impact météoritique, justement, sur la Lune?
Ouais, tous les jours. Voilà. Ouais. Il faut bien réaliser que la surface de la Lune est bombardée en permanence. Et ça, depuis 4 milliards d'années. C'est pour ça que sur la Lune, on a cette couche de poussière qu'on appelle le régolithe, qui mesure de 5 à 15 mètres d'épaisseur, c'est tout simplement le résultat d'un concassage permanent de la surface lunaire par le bombardement météoritique.
Ouais.
Et ce bombardement, eh bien, on arrive à le surveiller depuis la Terre, parce que si vous utilisez un petit télescope, une petite caméra, eh bien, vous avez une probabilité non nulle de voir ce qu'on appelle des flashs lunaires, qui sont tout simplement les résultats d'une collision d'un petit morceau de roche venu de l'espace avec la surface de la Lune. Quand le morceau de roche impacte la surface, eh bien, on va fondre les roches lunaire, on va envoyer un petit nuage de gouttelettes de roches fondues qui vont envoyer de la lumière vers la Terre et hop, ça va se refroidir. Et donc, depuis la Terre, on voit les impacts en direct. Donc ça, c'est évidemment fantastique. Et ça va être utilisé d'autant plus comme source sismique. Dans les prochaines années, on va envoyer des sismomètres à la surface de la Lune avec les missions Artemis. Et donc, on va pouvoir enregistrer ces impacts qu'on aura vus de visu avec nos télescopes. Et grâce à ça, on pourra mieux sonder l'intérieur de la Lune qu'on connaît encore pas si bien.
Des roches lunaires, vous en avez eu beaucoup entre les mains, vous, Sylvain Boulet, ou pas?
J'ai eu la chance d'en avoir quelques-unes. Alors, on a deux grands types de roches, du basalte, en fait, des roches volcaniques. Vous savez, ces mers lunaires, ces étendues sombres à la surface de la Lune qu'on voit à l'œil nu, ça, c'est essentiellement constitué de basalte, qui sont très proches de nos basaltes terrestres, de nos roches volcaniques. Et puis, tout ce qui est clair, très cratérisé, ce qu'on appelle plutôt de l'anorthosite, c'est un peu l'équivalent de, finalement, notre granit terrestre. Alors, c'est pas la même composition, mais ce sont les roches les plus anciennes qui se sont formées au tout début de la formation de la Lune.
Allez, Sylvain Boulet, on passe aux questions pour vous. Avec ce premier message de Guillaume, vu la fin annoncée de la Station Spatiale Internationale, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de bâtir une base permanente sur la Lune, demande-t-il?
Alors, c'est évidemment intéressant. Alors, on parle quand même, on n'a pas parlé de la station lunaire, la Gateway, qui devrait être une mini-station orbitale autour de la Lune. Mmh. Et donc, il devrait y avoir justement ce remplacement tout doux. Alors, on n'est pas encore là parce que, et puis, c'est pas la même taille. Mais c'est vrai que le but, c'est quand même d'aller s'installer entre la Gateway et la surface de la Lune.
Une pensée pour Sophie Adnault, la française, qui est en ce moment dans l'ISS. Est-ce qu'elle pourrait d'ailleurs faire partie des astronautes lunaires?
Oui, on parlait beaucoup de Thomas Pesquet, mais il n'y a pas de raison qu'effectivement, à son retour, d'ici que toutes ses missions Artemis se fassent, elle sera très bien placée pour aller dans cette gateway.
Allez, on écoute un message vocal de Pierre-Yves.
Oui, moi je me pose une petite question. Au-delà de l'intérêt que ça peut représenter de retourner sur la Lune, je me demande pourquoi c'est si compliqué à faire, puisque ça a déjà été fait plusieurs fois par le passé. Merci de votre réponse.
C'est une bonne question.
Oui, en fait, le principal problème, ça a été le lanceur. Le lanceur, c'est très très coûteux à développer. En fait, on l'a vu dans la mission Apollo, ça ça a coûté à l'équivalent aujourd'hui des centaines de milliards de dollars. Et aujourd'hui, on a une économie un peu plus touchy, donc on essaye de faire un peu plus attention. Et c'est plus compliqué, finalement, de relancer, de recréer une telle fusée.
Allez, un scénario catastrophe. Élodie nous demande, est-ce que forer et faire des extractions sur la Lune, ça ne risque pas de perturber l'équilibre entre la Terre et la Lune et de créer des désordres irréversibles ?
Alors, irréversible peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait polluer clairement la Lune. Et donc, cette pollution, il va falloir vraiment faire attention. Et on sait que du moment où on commence à faire ça, c'est difficile de faire attention. Et donc, forcément, on polluera la Lune.
Géraldine dit, l'humain n'a pas assez de la Terre à saccager. Il faut qu'il aille extraire et exploiter les ressources sur la Lune. Quel prédateur, c'est absolument désespérant, dit-elle. On va écouter un nouveau message de Franck.
Bonjour, je voudrais savoir combien va coûter ce programme Artemis aux États-Unis ? Et je me demande dans quelle mesure c'est pas fait aussi pour créer une concurrence avec la Chine et faire dépenser beaucoup d'argent à la Chine.
Sylvain Boulet qui se frotte les yeux en disant zut, j'ai pas le budget.
Le chiffre exact, mais clairement, on est sur des dizaines de milliards de dollars. Hein, donc, c'est sûr que c'est un gros investissement pour les États-Unis qui va peut-être en valoir le coup. Donc, il y a des priorités. Hein. On l'a vu, hein, Trump a annulé le retour d'échantillons martiens parce que le paquet est mis sur la Lune. Donc, est-ce que c'est bien ? Pour moi, non, parce que je n'aurais pas d'échantillons martiens à étudier.
Ouais. Et l'aspect compétition dont parlait Franck dans son message avec la Chine, je pense que c'est une évidence quand même.
Oui, c'est sûr que on a cette concurrence. Après, les Chinois ont envie d'y aller sur la Lune. C'est-à-dire que clairement, ce n'est pas parce que les Américains sont là qu'ils vont faire dépenser plus d'argent aux Chinois. Je pense que les Chinois ont un programme spatial bien installé et ils veulent continuer à se développer.
Gilles demande, un alunissage réussi de la mission Artemis pourrait-elle clouer le bec une bonne fois pour toutes à tous les complotistes qui mettent en doute les premiers pas de l'homme sur la Lune ?
Non.
Et on en parle près de 60 ans plus tard.
Non, bien sûr, ça clouera jamais les complotistes.
Même si on les emmène.
Oui, exactement. On leur a mis des lunettes de réalité virtuelle. Non, malheureusement, on a beau leur montrer aujourd'hui des images haute résolution de la surface montrant les sondes Apollo, il y aura toujours des images truquées ou autres, donc non, ça ne répondra jamais aux complotistes.
Alan dit, quel intérêt de continuer ces explorations spatiales quand on fait si peu pour étudier, soigner, protéger nos mers, nos océans, qui représentent 70% de notre planète.
Non, il a totalement raison, c'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment, l'exploration spatiale est une partie de la science et on a envie de comprendre d'où on vient, l'origine de la vie, etc. Mais c'est vrai que par exemple, les océans, on est loin de les comprendre il faut un équilibre et c'est pas simple à trouver.
Allez, on écoute un message d'Isabelle.
Bonjour, c'est Isabelle. Je voudrais poser une question. La semaine dernière, nous étions dans les Pyrénées et nous avons vu le croissant de lune inversé par rapport à quand nous le voyons, quand nous sommes dans la région nantaise. Je ne comprends pas trop ce phénomène. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Merci.
Merci pour ce message, Isabelle. Qu'aviez-vous bu ce soir-là ?
Alors, ça dépend à quelle heure elle a observé. Parce que si elle a observé le croissant au petit matin, effectivement, le dernier croissant est inversé du premier croissant. Donc, peut-être qu'elle a vu, effectivement, le croissant lunaire très tôt le matin. Et effectivement, c'est normal qu'il soit inversé.
Donc, elle n'a pas bu. Pardon, Isabelle. Pascal demande, elle aimerait savoir s'il y aura encore une édition de Encore sur la Lune. Encore sur la Moon. Pas du tout. On the Moon Again.
On the Moon Again. Oui, bien sûr. On the Moon Again est de retour, puisque nous l'organisons donc les 19, 20 et 21 juin. Donc, le concept est très simple. Si vous avez un télescope dans votre grenier ou pas, sortez-le. En fait, le 19, 20, 21 juin, il suffit de l'installer sur la place de votre village, au bord d'une rivière, en plein centre-ville, et surprenez les passants, montrez la Lune aux passants. Vous allez voir, c'est fantastique. La réaction est toujours incroyable pour tous ces gens qui n'ont jamais eu la chance de voir la Lune. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il suffit d'aller sur onthemoonagain.org, proposez votre site d'observation et vous ferez partie de cette grande communauté. Là, l'année dernière, on était plus de 600 sites d'observation dans 60 pays. Donc aujourd'hui, c'est un vrai événement international et on essaye de tous se retrouver tout simplement pour rêver un peu plus.
Mais c'est chouette cette idée d'apporter son télescope n'importe où d'ailleurs, pas seulement sur des sites d'observation. Vous l'avez fait la semaine dernière sur le parvis de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, on a mis une petite photo en story sur Instagram pour voir aussi le télescope que vous avez avec vous.
C'est un chouette modèle quand même. Hein.
Ouais, c'est un beau modèle. Et puis, ce qui est super, c'est que c'est très simple en fait. Ça ne demande pas de réglage. On l'installe, on arrive, bam, les gens font la queue et découvrent la Lune avec nous. En fait, plus de 80% des gens qu'on croise n'ont jamais imaginé que c'était possible d'observer la Lune. Donc, c'est là où il faut. Tous les gens qui ont des télescopes, et aujourd'hui en France, il y en a des centaines de milliers de télescopes qui ont été vendus et qui restent souvent dans un grenier. Alors, sortez-le et partagez avec le plus grand nombre. C'est vraiment notre devoir de pouvoir tout simplement donner la possibilité au plus grand nombre de lever les yeux au ciel.
Voilà, donc c'était vendredi dernier. Si vous voulez voir le télescope de Sylvain Boulet et en plus Notre-Dame de Paris, eh bien vous allez sur la story Instagram de la Terre au Carré, donc On the Moon Again pour s'inscrire. Ce sera les 19, 20 et 21 juin prochains. Voilà, on croise les doigts pour Artemis 2, hein, si le décollage se fait bien en avril. Et puis la mission vraiment lunaire pour poser le premier pied depuis bien longtemps, ce sera en 2028 si tout va bien.
C'est ça, exactement. On l'attend avec impatience.
Merci beaucoup, Sylvain Boulet, d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. Merci beaucoup à Jean-Philippe Verret qui a préparé ce dossier aujourd'hui. Thierry Gravoux qui était à la technique.